rouge pour le journal d'Haïti et des Amériques.
Merci Anne Mignard, il est 9h10 à Washington. La dispute franco-américaine, Paris n'apprécie pas du tout et c'est un euphémisme de s'être fait couper l'herbe sous le pied par les États-Unis pour la vente de sous-marins à l'Australie. Qu'est-ce que cela dit de la relation de Joe Biden avec la France et l'Europe face à son rival chinois? On décrypte avec notre invité. Un communiqué pour contre-attaquer le Premier ministre haïtien Ariel Henry répond aux accusations qu'il le vise dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Et puis, comme chaque jour, le journal de la première Benoît Ferrand, l'assouplissement des mesures sanitaires en Guadeloupe accueilli sans enthousiasme.
Eh oui, la réouverture des restaurants et autres salles de sport sera en effet conditionnée au pass sanitaire, de quoi doucher en effet quelque peu. L'enthousiasme des professionnels concernés, nous les entendrons.
À tout à l'heure, Benoît, dans 15 minutes, et bienvenue à tous. On range les smokings dans les placards et on oublie les petits fours. Pas de soirée de gala ce soir à Washington. La France annule la réception qui devait avoir lieu ce vendredi à la résidence de son ambassadeur censé célébrer la coopération franco-américaine lors de la guerre d'indépendance des États-Unis. 240 ans plus tard, la température est au plus bas entre les deux alliés. Paris trahi, sorti du jeu. L'Australie hier a annulé la commande à la France de sous-marins pour se fournir auprès des Américains. Un coup dans le dos de la part de l'Amérique de Joe Biden, estime le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Bonjour Nicole Bacharan.
Bonjour.
Historienne, politologue, spécialiste des États-Unis, merci d'être avec nous avant d'évoquer cette dispute ensemble et ses conséquences. Je m'adresse à Romain Lemaresquier, qui avez lu la presse américaine. Romain, évidemment, cette dispute, ses origines, ses conséquences, tout cela est à la une des journaux.
Oui, l'accord historique scellé ce jeudi entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie pour tenter de préserver la sécurité dans la région Indo-Pacifique, selon ces pays, visait la Chine, explique le Washington Post, mais a eu pour conséquence de froisser la France. Les responsables français sont même furieux, détaille le quotidien, car outre les questions financières, cet accord démontre les véritables intentions des États-Unis en matière de géostratégie pour qui désormais la Chine est le principal adversaire, explique le journal.
Pour le Washington Post, Romain, cette décision marque surtout un tournant dans les relations avec l'Union européenne.
Oui, un partenaire jusqu'à présent incontournable, mais qui est désormais relégué dans l'arrière-cour. Selon un analyste interrogé par le quotidien, l'Union européenne n'est pas un acteur dans cette région indo-pacifique, contrairement à l'Australie et le Royaume-Uni, deux partenaires de longue date qui lient des liens à très long terme en s'alliant avec les États-Unis, avec qui ils partagent désormais une technologie nucléaire de pointe. Pour le New York Times, cette décision tend les relations entre deux partenaires historiques, à savoir la France et les États-Unis, des relations qui retombent au même niveau qu'en 2003, lorsque la France s'opposer à l'intervention américaine en Irak.
Alors les French Fries vont-elles à nouveau être renommées les Freedom Fries? C'est à voir. Nicole Bacharan, chercheuse à Sciences Po Paris, quel est votre sentiment? On est revenu à l'état de 2003?
Oui, à peu près. Je pense qu'on est vraiment dans un moment de crise profonde entre la France et les États-Unis, et crise d'autant plus profonde que en France, on ne s'y attendait pas. Joe Biden est quelqu'un qui est connu dans les milieux diplomatiques depuis une quarantaine d'années, ensuite vice-président, et qui s'est toujours présenté comme un ami de l'Europe et qui a rencontré tout le personnel diplomatique européen au cours de sa longue carrière. Donc c'est certain que il y a une crise profonde. Le fait que les Français aient été prévenus au dernier moment, que pour l'instant, en tout cas publiquement, on ne sache pas vraiment quelles sont les raisons immédiates qui ont poussé les Australiens à changer ainsi leur fusil d'épaule. Et puis on voit bien que face à la Chine, dans la zone Indo-Pacifique, les Américains comptent sur la Grande-Bretagne, qui fait quand même un peu de la figuration, ensuite sur l'Inde et sur le Japon, mais pas sur la France ou même sur l'OTAN, pas sur l'Europe.
On va le détailler, Nicole Bacharan, mais juste effectivement, décision unilatérale, brutale, imprévisible, a dit le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui, pour le paraphraser, a parlé d'un coup à la Trump. La comparaison, évidemment, est loin d'être anodine. Je crois même que ça a été peu apprécié du côté de la Maison-Blanche.
Ça a été peu apprécié, mais on peut pas nier cette réalité. C'est vrai que pendant la présidence Trump, une bonne partie des Européens ont en quelque sorte fait le gros dos, en attendant que ça passe, avec l'espoir que malgré tout, ça n'était pas une tendance de fond, que c'était une présidence extrêmement hostile à l'Europe, ça c'est certain, mais que c'était pas l'Amérique qui allait durer. Or là, c'est vrai qu'il y a plusieurs éléments. La sortie calamiteuse d'Afghanistan, et les Européens n'étaient pas présents militairement, mais ils étaient présents par les conseillers, par les enseignants, etc. Et les Américains leur ont dit « bon, c'est comme ça, c'est nous qui assurons la sécurité, donc vous n'avez rien à dire ». Le discours de Joe Biden affirmant « c'est une réussite extraordinaire, cette opération d'évacuation », alors qu'on voyait bien tout ce que ça ne l'était pas, et cette attitude qui consiste à nier l'évidence, c'était très trumpien, pour le coup, et puis, effectivement, cette brutalité dans le changement d'alliance et ce rejet de l'Europe continentale, ça ressemble quand même beaucoup à du Donald Trump.
Et malgré tout, la France reste un partenaire privilégié. Joe Biden l'a dit, le secrétaire d'État, Antony Blinken, l'a répété hier encore. Je vous propose de l'écouter.
France in particular. La France en particulier est un partenaire vital sur cette question et sur tant d'autres. Cela fait longtemps et cela va continuer à l'avenir, comme nous en avons discuté en profondeur au cours de nos nombreuses conversations avec mon homologue et entre les présidents Biden et Macron au sommet de l'OTAN, au G7 et ailleurs. Et maintenant, nous voulons saisir toutes les occasions pour approfondir la coopération transatlantique dans l'Indo-Pacifique et dans le reste du monde. Nous avons été en contact avec nos homologues français au cours des dernières 24 ou 48 heures pour parler de cet accord avant l'annonce. Comme le président l'a dit, et je veux insister encore là-dessus, nous coopérons de manière incroyablement proche avec la France sur beaucoup de priorités communes dans la zone Indo-Pacifique, mais aussi ailleurs dans le monde, et nous continuerons à le faire. Nous accordons une valeur fondamentale à ce partenariat et cette relation, et nous continuerons à le faire dans les jours à venir.
Antony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. Nicole Bacharan, dans une ère géopolitique qui est centrée sur la Chine, vous avez commencé à l'évoquer, quid à présent ce partenariat en plus, quand la confiance est mise à mal, les anciens alliés européens, est-ce qu'ils ont encore un rôle à jouer là-dedans ?
En tout cas, la vision qu'ils ont de leur rôle n'est pas du tout la vision américaine face à la Chine, ou en tout cas, en grande partie, ce n'est pas la vision américaine. L'Union européenne vient de publier, dans les jours qui ont précédé cette nouvelle crise, la stratégie de l'Union européenne pour la coopération dans la zone Indo-Pacifique. Et dans cette stratégie, l'Europe évoque le souhait d'engager le dialogue avec la Chine sur de multiples questions d'intérêt commun. Et puis, par ailleurs, de quand même mettre des limites, notamment sur la question des droits de l'homme. Mais cet engagement multiple sur les intérêts communs, c'est pas du tout la vision américaine, ni la vision australienne, d'ailleurs, qui ont une conscience beaucoup plus aiguë d'une menace immédiate et forte de la Chine en matière économique, commerciale, géopolitique, voire même militaire à l'égard de Taïwan. Donc, on peut-être, à l'occasion de cette crise, se dire que ce qui a pu jouer, entre autres choses, c'est une relative méfiance quand même à l'égard de la France et de l'Europe. Une méfiance qui vient de loin. On peut parler de la Seconde Guerre mondiale avec Vichy et De Gaulle, deux visages de la France. Et à la sortie de cette guerre-là, sur la question de la technologie nucléaire, un refus américain de partager avec les Français, alors qu'ils partageront avec les Britanniques. Mais se méfiant de la France, avec son parti communiste très fort à l'époque, bon, aujourd'hui, on a une France avec quand même une tendance, un tropisme vers la Russie, à l'extrême droite, il y a une méfiance. Par ailleurs, il y a pour l'Australie, au fond, certainement, une préférence pour le parapluie militaire protecteur américain que pour une alliance avec la France qui leur semblera peut-être plus fragile, moins sûr. Donc, mais en tout cas, ça vient de loin.
Donc Joe Biden redéfinit finalement les alliances dont son pays, avant toute chose, si je vous suis, a besoin. Est-ce que ça veut dire que c'est avec nous, pourrait dire Washington, et si vous ne suivez pas, tant pis pour vous, on vous laisse sur le bord de la route ?
À l'heure actuelle, c'est très clairement ça. Mmh. C'est très clairement ça. Et d'une certaine manière, je dirais que l'Amérique revient à ses origines. Le président Washington avertissait les Américains contre toute alliance avec l'Europe, notamment. Et ça, c'est une attitude qui s'est poursuivie. Donc là, les États-Unis font un accord stratégique avec la Grande-Bretagne et avec l'Australie, sans la France, sans l'Europe, qui est un peu les anglo-saxons qui se font confiance entre eux, contre une Europe continentale dont ils se méfient davantage.
Mais c'est un bon calcul de la part de Joe Biden ?
Je pense que c'est un bon calcul à court terme, puisque dans l'immédiat, il est certain que avec l'Australie et dans les jours qui viennent à Washington vont aussi être réunis les pays de ce qu'on appelle le Quad, c'est-à-dire non seulement l'Australie et les États-Unis, mais également l'Inde et le Japon. C'est plus solide. La position américaine est plus solide en étant présente de cette manière aux côtés des Australiens que si l'accord avec la France s'était poursuivi. À long terme, les Américains vont être obligés de s'apercevoir qu'ils n'ont pas tellement d'alliés de rechange dans le monde, que leurs meilleurs alliés, ce sont quand même les démocraties, c'est-à-dire l'Europe occidentale, et qu'il y a un énorme trou noir dans cette stratégie qui est le Moyen-Orient, et le Moyen-Orient qui a une singulière habitude de se rappeler au bon souvenir des présidents américains qui veulent se concentrer uniquement sur l'Asie Pacifique. Et quand il s'agit du Moyen-Orient, le rôle européen, même à la marge, reste essentiel.
Nicole Bacharan, spécialiste des États-Unis, merci beaucoup pour votre éclairage sur ce dossier.
Merci
que l'on referme. Merci. Il est 9h21 à Washington. Radio France International. On reste aux États-Unis, on vous retrouve. Romain Lemaresquier, vous nous emmenez au Texas.
Oui, où des milliers de migrants sont entassés sous un pont dans la localité frontalière de Del Rio en attendant que leur dossier soit traité. Depuis le début de la semaine, un flux constant de migrants, principalement, comme je vous le disais, des ressortissants haïtiens, selon le Houston Chronicle, convergent vers cette petite ville située au bord du Rio Grande, le fleuve qui marque la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Les autorités locales se disent dépassées par le nombre de migrants, qui serait plus de 9000, un chiffre qui devrait encore augmenter selon les autorités. Des migrants qui se sont installés sous un pont afin qu'ils soient protégés du soleil et de la chaleur, selon CNN. Et il faudra des jours, voire des semaines, pour que les dossiers de ces demandeurs d'asile soient traités malgré les renforts qui devraient être déployés, selon la police des frontières, interrogée par le quotidien new-yorkais.
Et on entendait sous votre voix, Romain, ce brouhaha de ces milliers de migrants entassés donc, sous ce pont dans cette ville de Del Rio. Des responsables que vous évoquez, Romain, qui auraient réclamé de l'aide au gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott.
Oui, ce dernier a annoncé hier dans un communiqué son intention de fermer 6 points de passage entre les deux pays pour tenter de freiner l'entrée de migrants sur le sol américain, détaille le Houston Chronicle. Greg Abbott en a profité pour s'en prendre à l'administration Biden, coupable de négligence selon lui. Mais quelques heures plus tard, le gouverneur texan est revenu sur ses déclarations, car comme l'explique le quotidien, il n'a pas le pouvoir de décider à lui seul de la fermeture d'une frontière. La situation est donc tendue à Del Rio et cette tension risque encore de s'accroître dans les jours à venir, conclut le New York Times.
Et parmi ceux qui surfent sur la polémique côté républicain, le sénateur texan Ted Cruz. They take your breath away because it just goes on and on and on. Ted Cruz sur Fox News hier soir qui se lamente sur le sort des enfants et s'en prend en effet à l'administration Biden, seul responsable selon lui de cette situation. En tout cas, un juge fédéral hier a ordonné au gouvernement américain de suspendre le refoulement immédiat des familles de migrants interpellés à la frontière au nom de la lutte contre le Covid.
Port-au-Prince 89.3 FM.
Avant de poursuivre ensemble, Romain, la contre-attaque d'Ariel Henry, le Premier ministre haïtien, se défend, lui qui a récemment été mis en cause dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Ariel Henry aurait reçu, on le sait maintenant, des coups de téléphone de l'une des personnes recherchées dans le cadre de l'enquête. Amélie Baron, le chef du gouvernement, dénonce un tapage motivé par des intérêts politiques.
Après avoir simplement balayé les accusations en les qualifiant de diversion, Ariane Henry s'explique finalement sur les présumés contacts téléphoniques qu'il aurait eu avec Joseph Félix Badiot quelques heures après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Du moins, le Premier ministre sort de son silence sur ce sujet. Mais dans son communiqué publié sur les réseaux sociaux, il explique avoir reçu quantité d'appels après ce crime, notamment de la part de personnes qui voulaient s'enquérir de sa propre sécurité. Ariane Henry explique ne pas être en mesure aujourd'hui de se rappeler du contenu de toutes les conversations qu'il a eues ce matin du 7 juillet et il précise même n'avoir pas pu répondre à tous les appels. Surtout, le Premier ministre affirme qu'une conversation tenue avec une personne accusée de quelque chose ne suffit pas pour incriminer l'autre interlocuteur. Ariane Henry contre-attaque en dénonçant des intérêts politiques qui motiveraient des insinuations graves et sans fondement et il achève sa lettre en assurant que traduire les auteurs, co-auteurs et commanditaires du meurtre présidentiel était son objectif en mémoire de Jovenel Moïse et pour sa famille et le peuple haïtien. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
On s'arrêtera sur cette folle semaine en Haïti qui s'achève en détail. Les derniers développements aussi lundi avec un nouvel invité. Avant cela, Romain, terminons ensemble par l'actualité en Argentine. Moins d'une semaine après la défaite du parti péroniste au pouvoir lors des primaires, l'heure est au règlement de compte au sein de l'exécutif argentin.
Oui, la pression est maximale contre le président Alberto Fernandez, détaille ce matin Clarine. La faute à une lettre que lui a adressée la vice-présidente et ancienne dirigeante argentine Cristina Fernandez Kirchner, une lettre publique dans laquelle elle rappelle que depuis le début de la semaine, elle plaide pour un changement de gouvernement, ce que refuse jusqu'à présent le président. Celle qui avait choisi Alberto Fernandez comme candidat à la présidence semble avoir pris ses distances avec le chef de l'État, une rupture qui accentue l'instabilité du gouvernement, estime La Nation. Alberto Fernandez, qui devait se rendre à un sommet au Mexique ce jeudi, a finalement annulé son déplacement. Une crise qui semble sans fin et qui marque, selon La Nation, le début de la fin pour le mouvement péroniste.
Romain Lemaresquier, merci. Il est 9h26 à Pointe-à-Pitre.
Le journal de l'Outre-mer.
La Guadeloupe à la une. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Mickaël.
On parle toujours du Covid. L'annonce par le préfet de la réouverture prochaine de certaines activités ne déchaîne pas vraiment l'enthousiasme du côté des professionnels concernés.
Eh oui, la réouverture sous condition et sur la base du volontariat de certains commerces à compter ou de certaines activités à compter de mercredi prochain, 22 septembre, c'est en principe une bonne nouvelle, mais en principe seulement car la réouverture des restaurants et autres salles de sport sera conditionnée à la présentation et la vérification d'un pass sanitaire, de quoi doucher en effet quelque peu un éventuel enthousiasme. Sébastien Gilles.
Direction d'abord la salle de sport Nubré à Jarry. Ici, avant la crise, on comptait 900 adhérents. Ils ne sont plus que 300. Alors la perspective d'une réouverture mercredi prochain est-elle finalement une bonne nouvelle ?
Oui, c'est une bonne nouvelle.
Ken Nubré, propriétaire.
Bon, je ne vous cache pas que je n'ai pas écouté, alors je ne sais pas réouverture, mais sous quelles conditions ?
A priori, ça sera une réouverture donc soumise à la condition du pass sanitaire.
Ah, ça veut dire que je ferme le club alors.
Pourquoi ?
Sachant qu'en Guadeloupe, on n'est même pas 30% de vaccinés. Si je ramène ça à mon nombre de clients actuels, ça veut dire que j'ai 90 personnes qui pourront faire du sport à mon club. Ça ne me permet pas de payer mes charges.
Les charges, Miguel Jean-Noël y pense aussi. Il est vice-président de l'Association des restaurateurs des îles de Guadeloupe. Cette opportunité de réouverture mercredi prochain suscite chez lui un soulagement, mais également une profonde réflexion.
Moi, je suis sous une balance qui doit toucher à peu près 50 couverts, un peu plus de 50 couverts par jour. À mon avis, ça sera très compliqué d'atteindre ces objectifs.
Difficile de dire donc si les rideaux levés seront nombreux mercredi prochain, tout comme les clients munis d'un pass sanitaire. Au dernier recensement, un peu plus de 70 000 personnes avaient un schéma vaccinal complet en Guadeloupe. C'est un peu moins de 30% de la population.
Allez, après les deux réactions masculines en Guadeloupe, voici maintenant deux réactions féminines en Martinique, un peu plus joyeuses et un peu plus optimistes, au micro d'Audrey Govindin.
Au niveau de l'économie, déjà, c'est important. Et puis même pour le social aussi, puisque c'est des lieux de rencontre, mine de rien, donc on a besoin de ça. Quand on est confiné, on est chacun chez soi, et donc on tourne en rond, et puis on s'énerve, donc oui, il faut que ça ouvre.
Eh bien oui, effectivement, on sera soulagé si le magasin réouvre, parce que c'est pas toujours évident, on a beaucoup de marchandises qui sont arrivées, donc le magasin, en tout cas, nous, on a tout fait pour qu'il soit prêt pour la réouverture. Donc on a hâte quand même de rencontrer les clients de nouveau et puis de pouvoir travailler dans des bonnes conditions.
Que ça a été un coup dur, ce prolongement jusqu'au 19 septembre. Et donc nous attendons ça avec impatience.
car en Martinique également, les commerces dits non essentiels pourront rouvrir mercredi prochain. Bon après-midi, bon week-end, Michael, à lundi.
Merci beaucoup Benoît Ferrand, à lundi, très bon week-end à vous. Et à vous tous qui nous écoutez, c'est la fin de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques réalisé par Hélène Avril. On se retrouve lundi, en attendant, rendez-vous sur RFI.fr. Vous êtes